Il y aurait un peu deux temps. Un premier temps qui est simplement la restitution d'une expérience que j'ai vécue il y a à peu près une dizaine d'années. Et puis, dans un deuxième temps, ce sera un prolongement de cette expérience-là, donc une deuxième manière, d'une certaine manière, de lire cette expérience-là et voilà, une autre mise en récit, disons, à partir d'outils différents de cette expérience. Alors, l'expérience, je l'avais intitulée à l'époque Un état de monde autre. Et c'était bien avant l'organisation de l'enchantement, et je me suis dit que le texte en question se prêtait, vous me direz si c'est le cas, à la thématique. Ouverture. 6 juin 2012, tôt le matin, une belle journée ensoleillée commence dans un lieu inconnu et improbable de Marseille. Une vingtaine de personnes qui ne se connaissent pas se retrouvent pour une expérience organisée au théâtre du Merlan. Tous des volontaires curieux de participer au concert de sons de ville proposé par le collectif d'artistes ici même. C'est que l'attention à la ville sensible ne cesse de se développer depuis quelques années. Artistes, chercheurs et concepteurs de toutes sortes semblent désormais partager ce champ d'intérêt. Que va-t-il donc se passer ici qui innove en la matière? Délestage. Accueil chaleureux de quelques membres d'ici même qui nous demandent de nous délester des objets encombrants emmenés avec nous. Sacs, vestes, portables, lunettes. Tout est prévu de manière à ce qu'on retrouve nos effets à la fin de l'expérience. Première mise en condition, s'alléger, se désappareiller, se rendre libre de nos gestes. Il nous est demandé ensuite de choisir un endroit à proximité, à quelques mètres seulement, puis de fermer les yeux quand nous sommes prêts. Seconde mise en condition, s'abandonner, lâcher prise, accepter de se laisser guider par une inconnue. Délestage cette fois-ci des contraintes pratiques et interactionnelles, celles consistant à anticiper un obstacle ou répondre à une interpellation, s'orienter dans l'espace ou faire face au regard de l'autre. Juste marcher les yeux fermés. Cet espace quelconque, paysage industriel bordé d'une route et clairsemé d'entrepôts, disparaît désormais de ma vue. Je pense ici à certains questionnements relatifs à la confiance dans l'espace public, pour lesquels, faute d'un minimum de vigilance, la confiance deviendrait aveugle. Mais ne serait-ce pas précisément de cela dont il s'agit ici? Et si la confiance était aveugle, presque aveugle? Imprégnation. Un protocole très précis basé sur la marche urbaine, la vue empêchée et la pleine confiance est mise en œuvre. Je retrouve des affinités avec certains protocoles méthodologiques développés dans les sciences sociales. Trajet voyageur, parcours commenté, itinéraire. Autant de propositions qui initient également des cheminements en milieu urbain. Le monde de l'art et celui de la recherche se rencontrent dans des dispositifs expérimentaux ayant des airs de famille évidents. Mais je m'aperçois que l'invite faite ici est de nature sensiblement différente. Non pas parler en marchant, mais marcher en silence. Non pas se rendre quelque part, mais se laisser embarquer sans but précis. Non pas s'engager dans une courte séquence d'activités, mais prendre le temps d'une immersion prolongée. Tout se passe comme s'il s'agissait tout simplement de s'imprégner du monde, de s'installer dans un nouvel état de monde. L'expérience va durer 1 heure environ, nous le savons dès le départ, et cette durée est d'une importance capitale pour s'acclimater à l'état second qui va devenir le nôtre petit à petit. Marcher 1 heure à petits pas, en traversant des lieux calmes ou animés, ouverts ou recouverts, plus ou moins exposés au soleil. Explorer avec lenteur, encore, poursuivre. Continuer et perdre le sens du temps. Transformations imperceptibles de notre rapport au monde, infimes modifications scandées par quelques surprises à venir. De l'état vigile de départ à l'état somnambulique à l'arrivée, nous allons être sujets à un changement d'autant plus profond qu'il est lent et graduel. Mais comment en arrive-t-on là? Accompagnement. L'expérience démarre, debout les yeux fermés. Bruit de circulation routière en arrière-plan et exposition au soleil matinal. Vulnérable. Après quelques secondes, un bras vient soutenir le mien, mon bras ballant se replie de 90 degrés et repose dorénavant sur celui de ma guide. Bras sur bras, main sur main, côte à côte, pas un mot, contact anonyme qui le restera. Je ne saurais pas qui a été à mes côtés durant cette expérience. Je sais juste combien ce guide, cette guide, fera preuve de nuance et de finesse pour me mettre en mouvement, en confiance. Ce bras singulier qui m'accueille va devenir mon compagnon de route. C'est lui qui va m'emmener, m'emporter, me diriger, m'inviter à accélérer ou ralentir, m'asseoir, m'accouder ou m'adosser, monter ou descendre. Grâce à lui, je vais m'abstraire progressivement des préoccupations d'ordre pratique. Je vais lui déléguer cette tâche en quelque sorte. Infime contact qui m'allège du travail habituel. Un monde dans un simple toucher. Comment marche-t-on ensemble, se demandent certains sociologues. Cette expérience, bras à bras, semble y répondre d'elle-même, tant les micro-inflexions de mon complice de route traduisent la vaste palette du corps en marche et des mouvements en commun. Belle incarnation du tact, s'il en est. Une simple pression de main ou tension de bras suffit à maintenir l'accord de deux présences mobiles. Ces ajustements très ténus donnent à sentir la morphologie des lieux traversés, en même temps que la chorégraphie tacite de deux corps en mouvement. Il arrive parfois de changer de bras, et l'expérience se poursuit selon une latéralité autre. Je perds bras pour en retrouver un autre aussitôt, de l'autre côté. Le monde se reconfigure alors à gauche ou bien à droite, et mon corps avec. Déprise. Le début de la marche est bien sûr hésitant, timide, précautionneux. On cherche l'information sonore et on palpe beaucoup des pieds. Où suis-je? Qu'est-ce que j'entends? Puis-je faire un pas ici? Dépaysement. Nous sommes encore dans le monde des actions pratiques et il n'est pas certain, c'est certainement pas aisé d'en sortir. Des bruits indiquent que des personnes sont en train de travailler. Choc d'objets, son métallique, moteur de petits véhicules, discussions, avertisseurs, sonneries, déplacements et affairements de toutes parts. Quelqu'un passe juste à côté. Un moteur se rapproche puis s'éloigne. Plusieurs personnes discutent ensemble. L'agitation ambiante s'atténue parfois au cours du cheminement, mais contraste toujours avec la lenteur de notre marche et la discrétion de nos gestes. Nous sommes bel et bien ici et pourtant nous n'appartenons pas à ce milieu. Notre rythme n'est pas le même, ni notre engagement dans les situations, ni notre capacité à interagir avec ce qui se passe. Tout entier corps sensible en éveil, aucunement acteur de ce qui se passe. Perception sans action. Rupture du schéma sensorimoteur. Présence ne portant pas à conséquence. Rien ne semble pouvoir nous atteindre ou nous mettre en péril, comme si nous étions transparents ou invisibles aux yeux des autres. Alors on se laisse aller. Flottement au milieu des autres. Au fil du temps, un nouveau mode de présence au lieu s'installe, si loin et si proche à la fois, tels les anges du désir se tenant au seuil du monde habité. Notre proximité à ce qui se passe n'a d'intensité que celle de notre désengagement des activités en cours. Touché par ce monde privé de notre participation et pourtant accueillant notre présence. Filtrage. Et puis soudain, arrêt inattendu, courte attente, surprise d'un casque posé sur les oreilles, changement subreptice d'horizon sonore. Notre appareillage sensoriel se reconfigure une nouvelle fois. Tout comme la lumière qui peine à percer à travers les paupières des yeux fermés, les sons du monde environnant peinent désormais à se faire entendre. Écoute en sourdine, son amorti, voilé, atténué, comme placé sous cloche, plongé en eau profonde, brouillard sonore, quasi-présence. Là-bas, quelque part au loin, le monde sonne. Éloignement. Par contre, le bruit de la respiration devient présent. Perception de l'intérieur, écoute quasi introspective. Sans doute un peu comme dans une chambre sourde. Le monde continue bien d'exister par des variations de luminosité et des modulations de sonorité, par des différentiels de chaleur également, ou des souffles d'odeur davantage perceptibles. Peau en éveil, surface sensible, son assourdi, lumière colorée. Travail des organes filtrés qui nous relient au monde. Un deuxième palier est maintenant atteint. Non plus l'écoute en aveugle, mais le monde en sourdine. Corps sous influence qui décline une nouvelle manière d'être au monde sensible. Puis après quelques instants, longtemps, le casque est enlevé et le monde saute aux oreilles, comme en état d'hyperacousie. Un monde en relief refait surface, les proches et les lointains se reforment, les fréquences et les intensités se recomposent. La vie reprend ses droits et avec elle son animation et son entrain. Ce qu'il s'agirait presque d'écouter comme pour la première fois, comme une renaissance auditive. Composition. Encore ne faudrait-il pas sous-estimer ce qui est donné à percevoir en se focalisant exclusivement sur les transformations de l'appareillage sensoriel. C'est que les sons, odeurs, lumières, chaleurs et autres qualités sensibles ne sont pas complètement laissés au hasard du parcours. Tout un art de la sérendipité semble déployé pour créer les conditions d'une rencontre sonore inouïe et ouvrir des moments plurisensoriels inattendus. Ce bras qui guide est aussi celui qui compose avec le monde alentour. Et en effet, une invite est parfois amorcée pour tourner sur soi ou marcher à reculons, s'arrêter un instant ou accompagner une source en déplacement, aller vers ou échapper à. Autant d'esquisses qui permettent d'explorer l'univers sensible en créant des situations inédites de réceptivité. Tout se passe comme si on jouait de notre corps, non pas qu'on cherche à le faire danser ou sonner, mais plutôt à le disposer à sentir les coïncidences heureuses du monde alentour. Bref, ne s'agit-il pas d'intensifier l'expérience in situ en cherchant les meilleures résonances possibles entre un corps en mouvement et un monde sensible se faisant ? D'ailleurs, une affinité étrange s'établit petit à petit avec l'entourage. Enchantement. Enveloppement au sein d'un monde sensible tout entier collectif. Non plus seulement le bruissement de cet étranger ou la voix de cet inconnu, mais un corps commun qui semble tenir de lui-même. Bien sûr, des événements ne cessent de se produire, ponctuels et discrets, actions en cours que l'on peut identifier. Mais ces gestes semblent désormais se répandre, faire lien, jouer de concert, faire corps. Expérience d'une forme de vie sensible. Déplacement du percevoir vers le sentir, du cognitif vers le pathique. Le corps semble désormais enclin à vibrer aux qualités d'ambiance du site et aux tonalités affectives du monde environnant. Et puis finalement, cette belle ligne sonore d'un train à grande vitesse qui inaugure la remontée en surface au marché d'intérêt national de Marseille. Ouverture à une expérience ambiante immémoriale, découverte de l'existence d'une sensibilité atmosphérique, installation dans un état de monde autre. Partant de cette expérience, je vous propose de dériver un peu dans le monde des ambiances et des atmosphères. Que se passe-t-il quand on approche l'enchantement en termes d'ambiance ? N'a-t-on pas affaire à une forme particulière d'atmosphérisation du monde ? L'enchantement ne relève-t-il pas d'une mise en ambiance singulière qui accroît notre faculté de sentir et augmente notre puissance de vie ? Je voudrais explorer cette hypothèse en gardant à l'esprit l'expérience singulière que je viens de raconter. En quelque sorte, je vais tenter une expérience de pensée qui pousse à sa limite le phénomène d'enchantement, en m'immergeant dedans et en restant au plus près de l'expérience. Pour commencer, je dirais que l'enchantement n'a pas d'existence indépendamment d'un monde sensible qui l'incarne, qui le soutient et qui le rend possible, avec ses sons et ses lumières, ses gestes et ses allures, ses rythmes et ses affects. Peut-être même qu'il n'est autre qu'un mouvement de sensibilisation des existences à partir duquel le monde s'anime, se diffuse et s'amplifie. D'une certaine manière, on se rapproche d'une expérience pure, telle qu'en parle William James, c'est-à-dire d'un champ d'expérience sensible d'avant les distinctions du sujet et de l'objet. C'est dire que l'enchantement se rapporte moins à l'état subjectif d'une personne qu'au flux immédiat de la vie qui s'intensifie. Autrement dit, il consiste à tisser un milieu sensible en tant que tel. Il donne à sentir la tonalité d'ensemble d'un monde en train de se faire, et implique une situation d'insularité nécessairement passagère. Qu'en est-il alors de ce transport, de ce déplacement, du passage d'un monde dans un autre ? Avec l'enchantement, on est embarqué dans une aventure, au sens qu'en donne par exemple Georg Simmel. C'est-à-dire une forme d'expérience qui se détache du cours des routines quotidiennes et ressaisit dans un même mouvement la nature profonde de la vie elle-même. Peut-être que ce que dit Simmel de l'aventure s'applique aussi à l'enchantement, compris comme, je cite Simmel, la force secrète de faire sentir pour un instant la somme entière de la vie. Ce passage dans un monde autre relève d'une mise en ambiance qui procède d'un triple mouvement. D'une part, on assiste à l'installation progressive d'une atmosphère, d'une mise en condition discrète et continue, qui modalise un milieu sensible, lui donne une nouvelle consistance et ouvre une manière différente d'être au monde. Pas de grands événements spectaculaires ici, mais bien plutôt de multiples micro-variations sensibles qui tiennent ensemble, qui s'entremêlent et se répondent pour assurer le passage imperceptible d'un état à un autre. Une percée de soleil rencontre un murmure au loin, une place animée entre en résonance avec un parfum fugace, un regard bienveillant préhende un souffle ténu et un ciel étoilé. Tout est matière à connexion et transition, tout tient ensemble dans cet ennuagement léger et mouvant. On est dans le domaine des phénomènes de basse intensité, celui du moléculaire, des vibrations infinitésimales, des petites perceptions et des affects de vitalité qui tonalisent des corps tout autant que des situations. De l'ordre du vague, ce mouvement d'atmosphérisation infuse et imprègne de toutes parts. Il donne à sentir une qualité diffuse qui enveloppe et colore la situation dans sa totalité. Cette coloration d'ensemble, cette tonalité, appelle moins une perception centrée, focale, qu'une attention flottante et périphérique. Elle active bien plutôt les franges de l'expérience et s'ouvre à la défocalisation. On assiste ainsi à la coalescence fragile des éléments hétérogènes qui composent une situation. Il suffit d'ailleurs de presque rien, un faux pas ou un mot de travers, pour que l'enchantement se brise et que les conditions de félicité soient rompues. En première approximation, on pourrait dire que l'enchantement donne une voix à la prise de consistance d'un monde. Il retentit d'une enveloppe atmosphérique qui insiste et persiste dans le temps jusqu'à s'évanouir. L'enchantement se présenterait ainsi comme le tissage subtil et précaire d'un milieu hypersensible. Mais encore, ce mouvement d'atmosphérisation du monde est indissociable d'une participation active et continue des corps et des gestes, de ce qu'on pourrait appeler un accompagnement. Tim Ingold parle à cet égard de correspondance, Alfred Schuss d'un vieillir ensemble et Gunther Anders de co-réalisation. Il n'y a pas d'un côté une ambiance enchantée qui s'installerait et de l'autre des sujets qui en feraient l'expérience et y répondraient après coup. Si l'atmosphérisation procède bien fondamentalement d'une durée, d'une dynamique temporelle, elle engage avec elle des phénomènes d'induction qui remettent en cause la stricte distinction entre le pâtir et l'agir, entre l'état et l'acte. C'est dire que s'accorder à une ambiance revient à vivre avec elle, en co-réalisant ses mouvements, en rejouant ses gestes et en prolongeant ses formes motrices. Tout un art des accordages et des attunements est alors à l'œuvre, qui suppose un minimum de lâcher prise pour se laisser embarquer. Quand une musique m'enchante, je ne peux m'empêcher de vibrer avec elle, de la fredonner ou de l'entonner, de la gesticuler ou de la chanter au moins virtuellement. Je deviens littéralement la musique, je l'accomplis en même temps que je la ressens. L'enchantement est à la fois et indistinctement rythmique du sujet et du monde, du mouvement de vie qui me porte tout autant que je le porte. Dans sa belle phénoménologie de l'écoute, Gunther Anders montre à merveille comment s'opère notre capacité à devenir autre, en se réaccordant et en devenant soi-même, je cite, « le médium dans lequel on baigne ». Avec Mozart par exemple, c'est l'état libre et délié qui s'ouvre à nous, composé d'alternance de tension et de détente. On pourrait dire maintenant que l'enchantement ressortit à des gestes ambiants qui syntonisent un état d'être et embarquent dans un autre ordre de réalité. Dans sa psychopathologie existentielle, Ludwig Binswanger parlait de direction de sens pour nommer ces mouvements de nature atmosphérique, thymique, tout autant que corporelle et existentielle. Peut-être qu'avec l'enchantement, on a affaire à la prégnance de gestes d'envol, d'allègement, d'ascension et de flottement. Une voix s'élève qui ouvre une forme de sentir légère et aérienne en suspension, une danse de la vie. J'ai mis l'accent pour l'instant sur le geste de tenir ensemble avec l'atmosphérisation et celui d'entrer en mouvement avec l'accompagnement. Un troisième pourrait être brièvement évoqué, celui de donner le ton. C'est dire que l'existence est toujours intonée, prise dans une tonalité singulière et chargée d'affect. J'insiste ici sur la puissance tonalisante de l'ambiance, sur sa capacité à doter le monde d'une certaine physionomie d'ensemble, d'une certaine coloration, ce que j'appelais tout à l'heure avec John Dewey, une qualité diffuse. Loin d'être neutre et désaffecté, le monde se présente comme menaçant ou accueillant, angoissé, enjoué, apaisant ou bien encore enchanté. On est dans le domaine du sentir, irréductible à une prise cognitive ou une entreprise pratique. C'est bien plutôt un rapport pratique au monde qui se déploie en première instance. En tonalisant une situation, l'ambiance lui confère un certain visage et la fait retentir au-delà d'elle-même. Elle module sa charge affective et sa portée vitale. Elle ouvre des registres d'affect et de résonance, plus ou moins tristes ou joyeux. À cet égard, l'enchantement procéderait d'une altération tonale, d'un changement de disposition affective. On entre alors dans un fond tonal heureux et hospitalier, tout entier tourné vers l'affirmation inconditionnelle de la vie. S'il relève d'une tonalité affective parmi d'autres de l'existence, l'enchantement convoque néanmoins une faculté de résonance tout à fait singulière, celle d'activer une puissance de vie, d'accroître le sentiment d'exister et d'intensifier notre sensibilité au monde. Peut-être même qu'on pourrait se risquer à une hypothèse, l'enchantement comme tonalisation constitutive de l'attachement à la vie. Dans une telle expérience limite, on aurait affaire à un moment particulier de pleine confiance dans lequel s'estompent les doutes, les pulsions de maîtrise et la phobie du consentement. Aucune place n'est laissée au souci, à l'angoisse ou à la perplexité. Rien n'est laissé à la négativité et au tragique de l'existence. Expérience de pensée, je disais en introduction, qui explore le règne naïf et innocent de l'adhésion totale au monde et du sentiment infaillible de confiance. Dans le cas de l'enchantement, l'ambiance fonctionnerait comme une enveloppe protectrice et bienveillante qui garantit l'évidence de la foi perceptive et conforte la sécurité ontologique. Pour le dire autrement, pas de confiance de base en la continuité et la fiabilité des milieux de vie sans un minimum d'ambiance enchantée. Mais alors, l'enchantement ne serait plus l'exclusif de certaines situations seulement, mais le vecteur de la vitalité présente dans toute situation. Et alors, tout semble possible, ouvert à la découverte et à la surprise, à l'abandon et à l'inspiration, à la rencontre des phénomènes microscopiques et des forces cosmiques. En s'inspirant finalement de la poésie, on pourrait dire qu'un petit bout d'éternité est momentanément retrouvé, comme la mer mêlée avec le soleil. Voilà, je vous remercie.